Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe pour Le Bonheur en question. Une émission dans laquelle, chaque semaine, je réponds aux questions des auditeurs. Des questions sur le bonheur que vous m'avez posées sur le site de Radio Axe ou sur les réseaux sociaux suivront un conte de sagesse et un titre de ma playlist Bonheur.
Le bonheur est-il plus dans le pré qu'ailleurs, comme tente de le suggérer le poème de Paul Fort ?
Hélène, je te remercie pour cette nouvelle question qui me touche plus particulièrement. Pourquoi ? Peut-être parce que je suis un fils de paysan et que même en ayant vécu toute ma vie en étant un citadin, puisque en fait je suis né à la campagne, mais depuis l'âge de 3 ans je vis en ville, j'ai quand même été éduqué par un papa, voilà, qui avait été agriculteur, métayer, et qui avait le respect de la nature sous toutes ses formes. J'ai été élevé par une maman qui adorait les plantes, les fleurs, qui leur parlait, qui les ressuscitait. Voilà, j'enregistre cette émission un jour de Pâques, et donc la renaissance par rapport à ces deux personnes qui t'ont apporté dans la découverte et puis l'amour de la nature, me touche particulièrement. Ils nous ont quittés, mais ils sont toujours présents avec moi. J'avais déjà parlé de la nature dans une de mes chroniques, et pour indiquer combien c'était important ce besoin de contact avec la nature, combien les arbres, les herbes nous font du bien, combien les forêts, et combien tous les paysages nous font du bien. Et chaque fois, en effet, qu'on a besoin de revenir sur soi, eh bien, je pense qu'on a aussi besoin de sortir et d'aller au contact de la nature. C'est ce qu'on fait aussi tous les penseurs ou les philosophes qui sont à un moment donné de leur vie isolés, mais en tout cas près de la nature pour se retrouver. Alors, le besoin constant d'être dans le pré aussi, si le bonheur est dans le pré, comme dit Paul Fort, c'est aussi besoin d'être au contact de la vie, finalement, d'une nature vivante, des animaux. Hier, j'étais avec ma toute dernière petite fille, Loïs, qui a 9 mois, à la ferme de Galy à Sartrouville, et je la voyais fascinée, déjà à son âge, en observant les animaux, la vie tout autour d'elle. On voit combien cela nous nourrit, combien ça nous fait du bien. Parce que dans la nature, on y retrouve finalement des deux forces qui nous poussent, nous aussi, à nous sentir proches de la nature, à nous sentir vivre. Une force de stabilité, ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire le fait de pouvoir trouver un équilibre, trouver une harmonie dans un environnement qui nous convient. Et en même temps, on y trouve aussi de la vie et du mouvement, c'est-à-dire cette force de vie faite de puissance, de recherche d'énergie, de résilience qui nous pousse à avancer et à vivre et à choisir ce qui nous rapproche de la vie à tout moment. Donc la nature, c'est aussi un rapport à soi, c'est aussi un peu un rapport à l'autre, un rapport aux autres, mais dans la nature, il y a surtout un rapport au monde, le moment où on se sent plus proche de quelque chose qui nous dépasse. On le voit d'ailleurs dans cette fichue pandémie là qui pousse finalement les gens des villes à aller vers les campagnes, comme à chaque fois qu'il y a eu une situation d'instabilité. C'était le cas lors des grandes épidémies du passé, mais c'était le cas des guerres, par exemple. Hein, si nos parents sont encore là pour nous parler de ce qu'ils ont vécu lors de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, ils nous disent en effet qu'à cette époque, les gens des villes essayaient d'aller à la campagne pour survivre, pour se protéger. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, hein, dès qu'on a eu une annonce de nouvelles conditions un peu restrictives de déplacement, beaucoup de Parisiens sont allés à la campagne pour y vivre mieux, tout simplement, la situation nous permettant de le faire. Alors, je parlais de guerre à l'instant, mais c'est pas inutile dans ta question, puisque tu nous parles de Paul Fort. Paul Fort, qu'on appelait à l'époque le prince des poètes, et lorsqu'il a écrit « Le bonheur est dans le pré », Cours-y vite, eh bien, ça, on a l'impression qu'il nous parle d'une comptine enfantine et qu'il nous demande juste de profiter du bonheur de la vie et de la campagne. Mais en fait, il faut savoir que ce poème a été écrit en 1917 et que cette comptine enfantine un peu naïve, en fait, parle de la guerre et des difficultés, de vite se courir, se mettre à l'abri au danger, de retrouver la pureté de la nature, et qu'à la fin, sauter la haie, c'était sortir des tranchées et d'y courir très très vite, sinon le bonheur n'y était plus, tout simplement parce que la personne avait perdu la vie. Donc revenons sur le bonheur et dans le pré, petite anecdote, pour revenir sur quelque chose de plus léger. J'étais justement dans le parc du dispensaire de Sartrouville en réfléchissant à répondre à ta question. Et puis j'avais mon fils Diego, 8 ans maintenant, près de moi. Je lui dis, Diego, d'après toi, est-ce que le bonheur est dans le pré? Il me dit, ben non. Je lui dis, ben pourquoi? En fait, il me dit, en fait, il avait compris, le bonheur est dans le prix. Et donc je pense que c'était intéressant si, de voir cette incompréhension. Non, le bonheur n'est pas dans le prix des choses, il est dans leur valeur, dans ce que nous y mettons, dans ce que notre cœur mesure en fait de ce que ça nous apporte. Donc voilà, donc le bonheur est dans le pré, j'ai envie de l'écrire aussi autrement, et dans le pré avec un S à la fin, un accent un petit peu plus grave, et un S en disant ben, le bonheur est dans le proche aussi. Le bonheur est à chercher près de soi, pas forcément à l'autre bout du monde, pas forcément avec des choses qu'on ne possède pas, mais le bonheur est dans les choses simples, le bonheur est dans ce que l'on possède finalement. Profitons de ce que nous possédons, observons, savourons, regardons attentivement ce qui est autour de nous et ce qui est en nous aussi. Parce que peut-être ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le bonheur est dans le pré, mais le pré est au fond de nous. Donc le bonheur est aussi en soi, avant tout. C'est ce que je partagerai aussi éventuellement dans d'autres réponses à d'autres questions.
Le bonheur est-il un devoir ou une obligation ?
Myriam, encore une de tes excellentes questions, continue à m'en envoyer, et les auditeurs aussi, envoyez-moi d'autres questions pour pouvoir faire vivre cette émission. Alors, le bonheur est-il un devoir ou une obligation? Est-ce que vraiment on a le choix entre les deux, ou est-ce qu'on peut évidemment dire que ce n'est ni l'un ni l'autre? Ben, moi, je pense en effet que le bonheur n'est ni un devoir, on n'a pas un devoir de bonheur, on n'a pas une obligation à être heureux, ce n'est pas quelque chose d'absolu et d'obligatoire. Je pense néanmoins que nous sommes faits pour être heureux. Je pense néanmoins que nous sommes constitués pour pouvoir trouver du plaisir à court terme, en satisfaisant nos cinq sens, et que nous sommes faits aussi pour pouvoir aussi s'investir dans quelque chose de plus long et de plus important, qui donne plus de sens à notre vie sur du long terme et qui, du coup, fabriquera aussi notre bonheur, ce fameux bonheur démonique. Alors, si je reviens sur quelque chose que j'avais déjà abordé dans une de mes chroniques, en fait, génétiquement, nous avons une capacité, une prédisposition au bonheur qui est réalisée par un gène, le gène 5-HTT, qui va produire un certain nombre d'hormones et de neurotransmetteurs qui vont nous aider à ressentir cette sensation de bonheur. Et donc, ce gène, il existe en deux versions. Et soit on a la version longue, soit la version courte. 30% de la population a la version longue. Et donc, 30% de la population a une prédisposition supérieure au bonheur que les 70% restants. Donc, ce qui nous fait penser aussi, finalement, à l'optimisme, au pessimisme, au fait que voilà, nous sommes faits pour être heureux, et nous sommes faits aussi, en même temps, pour nous méfier, pour anticiper les difficultés, les problèmes, et aussi être préoccupés, et ne pas être toujours heureux, bien sûr. Donc, il y a cette génétique, et tous les chercheurs s'accordent pour indiquer que cette génétique a un impact d'à peu près 50% sur notre capacité à être heureux. Autrement dit, il y a 50% de notre capacité à être heureux, de notre prédisposition naturelle au bonheur, 50% qui est sous notre contrôle. Alors, si on considère que ce n'est pas une obligation, que ce n'est pas un devoir d'être heureux, mais que c'est une capacité que nous possédons tous, avec au départ plus ou moins de facilité, mais exactement comme pour apprendre les langues ou pour les mathématiques, eh bien, on a la même chose pour le bonheur, eh bien, ça peut se travailler. Et que je pense que si ce n'est ni une obligation, ni un devoir, moi, je pense que c'est un droit. Nous avons un droit au bonheur. Donc, déjà, un droit naturel, mais nous avons aussi un droit au bonheur, un peu comme dans la Constitution américaine ou japonaise, là où c'est inscrit le droit au bonheur. Ce n'est pas dans la Constitution française, mais je pense en effet que tout le monde a droit au bonheur. C'est ce que Cyrulnik rappelle aussi. Hein. Cyrulnik, c'est le pape de la résilience, celui qui a vraiment servi à faire connaître cet aspect important de nos capacités très puissantes, d'en sortir plus fort chaque fois que nous vivons une difficulté, un drame, un choc, un traumatisme. Eh bien, il nous dit, Cyrulnik, on a le droit de se réinventer une enfance. Si notre enfance n'était pas heureuse, on a le droit de se réinventer une enfance heureuse. Et donc, en restant optimiste, en pensant justement que, même si la situation actuelle n'est pas fabuleuse, eh bien, on a quand même le droit au bonheur, on va trouver le bonheur, on va le trouver, surtout si on développe l'esprit que, voilà, quelque part, si on n'est pas bien dans son job, eh bien, il y a quelque part une patronne ou un patron qui nous attend. Si on n'est pas bien avec son entourage, il y a quelque part quelqu'un qui nous attend, qui aimerait nous avoir auprès de lui et auprès d'elle. Et si, pour l'instant, on trouve peu de goût, en effet, peu de sens à ce qui se passe autour de nous, il y a quelque part une passion qui nous attend, des ressources inexplorées que l'on va pouvoir vraiment développer pour y trouver du plaisir, pour y trouver du bonheur. Donc, si je reviens à notre fameux gène 5HTT, eh bien, c'est celui qui nous permet de comprendre pourquoi, en effet, on peut être riche et malheureux, ou bien on peut être pauvre et heureux. Et cela me rappelle mon expérience de découverte de l'Afrique et d'avoir été au contact de personnes, certes pauvres, pas misérables, mais pauvres, mais d'une générosité, d'une ouverture, d'une joie merveilleuse. Ce qui explique aussi le choix de ma playlist du bonheur aujourd'hui, qui est mon premier contact avec la musique africaine et le groupe Touré Kounda, que j'avais vu au théâtre de Sartrouville, lorsque le théâtre actuel n'était pas encore construit, et que c'était dans l'espace Gérard Philippe que les concerts avaient lieu. Le conte de la semaine est tiré d'un livre intitulé « Conte des sages de l'Inde » de Martin Kantrick Segui. Il s'appelle « Compassion ». Ramanuja, l'un des trois grands maîtres du Vedanta, était généreux. Il regardait tous les humains pareillement, offrait à tous son attention, aux hommes comme aux femmes, quelle que soit leur caste. Il était même chaleureux à l'égard des hors-castes. Il scandalisait les gens de son temps. Au temps où il cherchait encore sa voie, il approcha un maître et le pria de l'initier. Il lui offrit une noix de coco. Le maître, reconnaissant une grande âme, prit la noix, la fendit d'un coup sec. Ainsi fut-il dit sans parole, que son mental était brisé et que son ego pouvait s'écouler. Puis il murmura à l'oreille du disciple le mantra sacré. Répète-le avec tendresse, avec intelligence, bien sûr, avec abandon et passion, avec détachement surtout. Ce mantra est une grande puissance. Il te libérera sans faute de l'ignorance. Répète-le en secret, garde-le au fond de ton cœur, ne le communique à personne. Pourquoi donc ne puis-je le dire à haute voix devant les gens? Si tu le divulgues, Il libérera celui qui l'aura entendu, mais toi, tu continueras à errer dans le monde plein d'ignorance et de douleur. » Ramanuja quitta le maître, grimpa aussitôt sur le toit du temple le plus haut. De là, il appela la population d'une voix forte. « Venez, écoutez bien. Le maître m'a donné le puissant mantra qui sauve assurément celui auquel il est transmis. Entendez-le, répétez-le. Aum Namo Narayana. Vous l'avez bien entendu ? Aum Namo Narayana. Aum Namo Narayana. » Le maître aussi l'avait entendu, évidemment. Il fit appeler Ramanuja. Le disciple vint sans tarder. « Pourquoi, malgré mon avertissement, as-tu divulgué ce précieux mantra sur la place publique ? » lui demanda-t-il effaré. « Je suis prêt à vivre encore 1000 vies d'ignorance et de douleur si ce que je vois, là, devant moi, sur la place, sont tous sauvés dès cette vie. » répondit paisiblement le disciple. C'était Jean-Marie Marcos pour Le Bonheur en question. N'hésitez pas à me poser des questions sur le site de Radio Axe ou sur les réseaux sociaux. Je vais maintenant partager un titre de ma propre playlist du bonheur. Mais auparavant, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h sur Radio Axe. Et d'ici là, soyez heureux.
Fatuyo si jajalano,
fatuyo si jajalano, fatuyo si jajalano,
fatu fai fai fatu fatu plema, yo fatuyo si jajalano,
fatuyo si jajalano, fatuyo si jajalano.
Fatuyo si jajalano, fatuyo si jajalano,
fatu fai fai fatu fatu plema, yo fatuyo si jajalano.
Utumbele utumbele
utumbele
utumbele utumbele
utumbele
utumbele utumbele
utumbele.
O mami sera. Oh mami será, oh mami cas.
Gia canaca un fabulo di faye jorola. Soya ye, soya soya inagambia.
Coco inaco, soyango, coco inaco, soyango, coco inaco, soyango, coco inaco, soyango,
fatuyo, si jajalano,
yo ne afue,
fatuyo, si jajalano, fatuyo, si jajalano, fatuyo, si jajalano,
fatu fai fai fatu, fatu clema, yo fatuyo.
Oh mami cas,
utumbele.
Oh mami sera, oh mami cas,
utumbele.
Fatuyo, si jajalano, yo ne afue.
Fatuyo, si jajalano.